Interview, actualité, chronique, montez le son pour la fosse. L'émission rock et métal, présentée toutes les semaines par la plateforme The Pit et Gérard Drouot Productions.
Bonjour à toutes et à tous, je suis Raphaël Udry, bienvenue dans l'épisode 46 du podcast Rock et Metal La Fosse, coproduit par la plateforme SVOD The Pit et Gérard Drouot Productions, disponible sur Spotify, YouTube, Deezer, the-pit.com, Apple Podcast, Samsung Podcast, Google Podcast et bien d'autres services de podcast. Si vous aimez cette émission d'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner à votre plateforme favorite pour ne pas rater les prochains épisodes qui sortent donc chaque vendredi. Le nom c'est La Fosse, le podcast Metal et Rock. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais recevoir le groupe de métal moderne francilien Souffre, issu des groupes Raga Raja et Proxima, et qui s'est dévoilé en octobre 2023. Leur premier EP, Dévotion Connexion, est sorti le 28 mars. Ils font leur release party la semaine prochaine, vendredi 12 avril, au Backstage à Paris, avec Atlantis Chronicles et NDKH. Et vous allez voir, musicalement, il y a une vraie démarche artistique très intéressante derrière ce groupe. Ça, c'est dans quelques minutes. Après l'interview, je vais vous parler du documentaire Beijing Calling, disponible sur The Pit, qui explore la scène rock et punk underground de la capitale chinoise. Puis on terminera l'émission avec le traditionnel agenda concert Gérard Drouot Productions et le programme du Hellfest Corner. On écoute tout de suite La Mémoire de la Peau, extrait du premier EP de Souffre, sorti le 28 mars, et on retrouve Urial, le chanteur et le compositeur de Souffre, juste après pour l'interview. C'est parti, Souffre, La Mémoire de la Peau.
Je reviens te confier mon écart, je fais qu'un acte de mal. souvenirs qui deviennent les tissus, les reflets des fantômes de mon âme. Par souffle de souffert qui me tiennent, la chaleur qui embaume mes larmes de flamme avec toutes ces histoires, toutes les boîtes, toutes les mémoires, mes blessures.
Vous écoutez le podcast Rock et Metal La Fosse, c'était Souffre avec le morceau La Mémoire de la Peau. J'ai le plaisir de recevoir Uriel, le chanteur-compositeur de Souffre. Bonjour.
Hello à toi Raph, comment vas-tu?
Ben, ça va très bien et toi?
À fond. Très heureux d'être là, très heureux d'être là dans La Fosse. J'avoue que j'aime beaucoup le concept de l'émission, j'aime beaucoup le concept de The Pit Edition. Je suis quelqu'un qui suit énormément les aventures de votre équipe et je trouve ça très chouette de participer à cette petite interview.
Eh ben merci beaucoup, tu es l'invité qui a le plus parlé avant que je pose une question. En général, les gens disent bonjour et puis ça s'arrête là. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'être dans cette émission aujourd'hui. Comme je le disais avant le morceau, Souffre est un groupe très jeune, formé en octobre 2023. À la base, c'est un groupe né sur les cendres d'autres groupes, plus particulièrement le groupe Raga Raja, dont on retrouvait déjà votre style musical de metal moderne, djent, metalcore progressif, avec du chant en français. Et Proxima de l'autre. Alors, j'ai pas trouvé beaucoup d'infos sur Proxima. Est-ce que c'est un groupe de death metal mélodique ou pas du tout?
Si, c'est un peu ça. C'est également en français. C'est le groupe de Jean-Marc, notre guitariste, qui en fait, quand on s'est rencontrés pour former quelque chose avec Léo, on s'est dit ok, il nous faut quelqu'un. On a posté un peu, on a cherché et on a auditionné que ce mec-là. Il est venu, il a débarqué, il avait le regard dans les pupilles, il avait un regard extrêmement froid mais extrêmement intense aussi. Et en fait, ce gars-là est d'une sensibilité folle, c'est un super compositeur, c'est un mec qui aime en plus le chant en français.
Ça a bien matché, ouais.
Ouais, bon, on s'est dit, on auditionne pas les autres, allez, bim.
D'accord. Ah. Bah, du coup, après quelques années de silence, voilà, avec Raga Raja, en octobre 2023, vous annoncez la fin du groupe et donc la nouvelle entité Souffre. Juste, est-ce qu'on peut revenir sur l'arrêt? Ouais, en pleine lancée pour le groupe Raga Raja, vous aviez sorti un EP Shaitan en 2015, un album Egosphere en 2019, dont on peut encore écouter d'ailleurs, on peut encore l'écouter sur Bandcamp. Vous aviez des chroniques positives et encourageantes. Enfin, voilà, pourquoi ça s'est arrêté en quelques mots?
Tu sais, des fois, il y a le facteur humain qui prend le pli. Et le facteur humain, même dans une entreprise bien lancée, ça peut s'arrêter. Et du coup, bah là, tout le monde n'était plus aussi aligné. Les énergies n'étaient plus aussi alignées. Donc, au bout d'un moment, tu changes d'envie. Et j'ai eu un déclic. Il fallait que ça s'arrête. Et il y a quelque chose d'autre qui est né. Simplement. D'accord. C'est une énergie en mutation. J'aime bien dire c'est rupture et mutation. Parce que globalement, tu romps toujours avec ce que t'étais. Tu romps à chaque minute avec ce que t'étais un peu avant. Mais en même temps, t'es en évolution et t'es en mutation. Donc, c'est un mélange des deux, à la fois une rupture et à la fois une mutation.
Alors quand et comment un petit peu est née l'idée du nouveau groupe Souffre ?
Je suis rentré chez moi, j'étais vénère, j'avais une journée qui était pas folle. Et dans ma tête, dans ces moments-là, quand il y a plein de trucs autour de moi, il y a une forme d'élan créatif qui se fait. Et j'ai eu le nom, ça m'est arrivé dessus, en garant ma caisse vraiment devant chez moi, j'ai eu le nom qui a popé. Et en fait, c'était ce Souffre, c'est vraiment l'injonction Souffre. Je me suis dit, mais en fait, c'est ça, c'est l'injonction de souffrir et en même temps, cette souffrance qui amène quelque chose de créatif, d'explosif, donc un peu sulfureux. Et j'avais envie d'un truc sulfureux, j'avais envie de quelque chose qui soit sincère, qui arrache, qui continue d'arracher un peu les tripes. Et du coup, ce petit F intérieur qui symbolise la souffrance intérieure...
Qui anticipe ma question.
Qui, du coup, débarque sur cette souffrance, sur ce souffre extérieur. Et en fait, ce terme, c'est la souffre, cette souffrance créative qui t'amène à créer quelque chose, en fait. Cette souffrance qui t'amène à la création, qui t'amène à produire, à exploser.
Alors justement, au niveau de votre nom, il faut préciser que vous n'êtes pas le groupe de black metal alsacien Souffre, qui s'écrit quasiment pareil, c'est-à-dire S-O-U-F, oh. F entre parenthèses R-E, et qui a sorti un EP en 2017. Vous, c'est Souffre, S-O-U-F. F entre slash F R E. Voilà.
Eh bien, je le découvre.
Voilà, c'est il y a le P sur Bandcamp et donc en faisant mes recherches, je me suis dit mais c'est quoi, c'est un premier test?
Non,
en fait,
du tout. Non, pas du tout. Eh ben écoute, j'avais cherché, mais peut-être que j'avais pas cherché suffisamment avec des façons d'écrire différentes.
Je te l'enverrai.
Je suis curieux d'écouter. De toute façon, je suis toujours curieux d'écouter. J'imagine que ça chante en français. Parce que
oui, ça chante en français. De mémoire, ouais, ça chante en français.
Je suis d'autant plus curieux d'écouter, mais ouais, non, j'ai.
Voilà, bon, c'est juste pour préciser. Voilà, c'est bien le donc SOU. F entre slash F R E et donc j'allais te demander ce que c'est, pourquoi cette stylisation de votre nom, mais tu viens d'y répondre.
Cette stylisation elle fait énormément sens avec l'explication que j'ai donnée, mais c'est vrai qu'on l'écrit de plein de façons différentes et en fait les gens peuvent l'écrire comme ils veulent à partir du moment où le F central est pas le même et qu'ils comprennent ça et qu'ils s'approprient ça, moi ça me va.
Et d'ailleurs, est-ce qu'il y a un petit jeu de mots avec le soufre, l'élément chimique?
Oui, c'est
d'accord.
Vraiment l'explosion. En fait le soufre, l'élément chimique pour cette souffrance créative, c'est vraiment qui t'amène à quelque chose de sulfureux derrière. Parce que bah, du coup, c'est un peu l'idée, le métal est quand même musicalement sulfureux, on va dire ça comme ça, historiquement et en plus sociologiquement aussi. Donc du coup, t'as vraiment ça prend son sens comme ça.
Alors du coup, tu parlais donc de Jean-Marc, donc de Proxima, que tu as rencontré et qui du coup a un peu initié aussi voilà, cette nouvelle entité Soufre. Aujourd'hui, c'est quoi un peu l'incarnation de Soufre? Par exemple, qui est-ce qui reste de Raga Raja? Parce que je crois qu'il reste Léo, le batteur, il me semble.
En fait, il reste ceux qui ont encore envie de mettre de l'énergie dedans.
D'accord.
Il y a eu, mais c'est même pas en fait dedans. C'est en fait ensemble. C'est à un moment, il faut comprendre que dans n'importe quel projet, n'importe quel groupe, c'est juste la fusion de plusieurs énergies. T'as des énergies qui sont plus ou moins lourdes, donc qui vont comme à l'instar d'une planète faire graviter des satellites autour de soi. Et ensuite, t'as des planètes qui sont. Tu sais, t'as vraiment deux énergies très fortes qui gravitent autour d'elles. T'as des frictions, mais aussi parfois t'as l'équilibre. Donc c'est assez intéressant. Au final, pour moi, c'est vraiment une question de gravité en termes d'intensité. Qu'est-ce que tu mets en termes de temps, en termes de moyens, en termes d'envie? Et tu captes des gens qui vont être plutôt des satellites et des gens qui vont plutôt être d'autres planètes avec lesquelles il va y avoir vraiment une danse qui va se mettre en marche.
Avec combien de planètes dans Soufre?
Je dirais qu'on est trois. On est vraiment trois à bien interagir. Parce que là, actuellement, on est quatre et on a une cinquième personne qui fait un peu de la production, de l'arrangement. On est quatre sur scène, etc. Mais je dirais qu'il y en a vraiment trois qui ont cette force de gravité... à la fois de par leur expérience perso et puis de leur
implication aussi,
leur caractère. Moi je crois beaucoup au fait qu'on n'a pas tous le même caractère, on n'a pas tous les mêmes tendances, les mêmes inclinaisons, mais que à partir du moment où on a de l'énergie et qu'on a envie que cette énergie elle soit canalisée quelque part, on peut toujours trouver une sorte de terrain d'entente ou une sorte de façon de bonifier cette énergie.
Alors c'était quoi votre vision, votre but, peut-être votre direction ou l'univers vers lequel vous vouliez aller avec ce nouveau groupe Soufre? Voilà, en quoi ça diffère de Raga Raja totalement ou pas, je sais pas.
En fait, on se pose pas les questions comme ça quand on fait de l'art. Je trouve que quand on fait de l'art, on a une boule qu'on essaie de répandre et ensuite on lui donne une forme. Et c'est plus facile de donner une forme que de comprendre la forme que tu lui as donnée quelque part. En fait, à un moment, il fallait quelque chose de plus grand que simplement des gens. Et le projet Soufre, c'est un projet qui se veut pas nécessairement que musical. On a commencé notre première immersive party, c'était une performance de théâtre qu'on a fait. Donc il y avait de la musique, il y avait des paroles.
C'était la semaine dernière,
La semaine dernière, exactement. Il y avait de la musique, il y avait des paroles, il y avait une perf théâtre où on a recréé en fait un morceau du clip dans une pièce avec. On a repris les acteurs, on a repris. Enfin, un acteur, on a repris. L'iconographie, la construction, etc. On a fait passer un message et l'idée en fait c'est d'offrir une expérience artistique aux gens et pas forcément que musicale. Pour l'instant on est au début donc nos moyens sont limités en la matière, mais dans l'idée ce sera vraiment au fur et à mesure de l'évolution du projet de proposer une expérience toujours plus immersive, toujours plus différente de ce qu'on peut faire et de ce qui peut être fait, même si aujourd'hui les groupes rivalisent de créativité et ça fait bien plaisir d'ailleurs.
Ah oui, effectivement. Puis vous, du coup, vous sortez un petit peu du lot. On va en parler dans la deuxième partie de l'interview.
Une iconographie extrêmement visuelle.
Iconographie, puis également dans l'approche musicale. On va en parler effectivement juste après. Je suis perdu dans mon interview. Pas du tout. Voilà. vous avez sorti votre première EP Dévotion Connexion le 28 mars dernier. C'est ça aussi dont tu parlais, puisque vous avez fait une release partie immersive. Hein, c'est ça, dont tu parlais.
Ça faisait un bout de temps qu'on le préparait. En fait, on a dévoilé notre premier titre en novembre. Le groupe préparait les choses depuis début 2022, donc on était vraiment sur une sur une préparation de longue date. Donc là, on n'en peut plus. On est déjà en train de bosser sur la suite, en fait. On a déjà même la suite.
Attends, garde ça pour la fin de l'interview. Garde ça pour la fin.
Je suis pressé, ouais.
Dans tous les cas, le titre de cette EP, qui est aussi un titre, enfin, d'un morceau, du coup, qui donne le nom de cette EP, qu'est-ce que ça signifie, en gros? Pourquoi vous avez choisi ce titre-là pour cette EP? Parce que du coup, c'est quand même le premier EP que vous dévoilez. Ouais. Ça veut dire que ça donne un petit peu votre identité aussi. Donc voilà, pourquoi vous l'avez choisi? Qu'est-ce que ça veut dire, pardon?
Parce qu'aujourd'hui, on a une. J'ai fait un constat, une observation, et d'ailleurs, ça se retrouve dans la pochette. Aujourd'hui, tu parles plus à un écran et tu échanges plus avec un écran ou à travers un écran qu'avec des gens. Et tu regardes plus souvent ton écran que l'iris de quelqu'un. Et je me suis dit, tiens, c'est marrant, c'en est à la limite de la dévotion. Puis quand je me disais ça, je regarde autour de moi dans le métro et je vois une génération entière, tout âge confondu. Vraiment, hein, y a de gens avec la nuque pliée, le téléphone, comme ça. Vraiment, nuque pliée, téléphone. Et là, je me suis dit, super, les ostéos ont du boulot pour les 30 prochaines années.
C'est clair.
Mais je me suis surtout dit, ok, ça veut dire qu'en fait, il y a plein de gens qui sont en train de vivre des moments sociaux, mais pas ensemble. Et je me suis dit, à la fois, c'est formidable, à la fois, c'est terrifiant. Donc à la fois il y a cette dévotion qui peut t'amener sur quelque chose de très positif comme de très négatif, et à la fois que tu as cette connexion qui peut t'amener sur du très négatif comme parfois du très positif. Je trouve qu'en fait le virtuel, ça polarise plus que jamais les choses de façon absolue. Je trouve que avant la tranche de la médaille était plus épaisse. Aujourd'hui, pour chaque élément de ta vie qui passe par le virtuel rend et éloigne le bon côté de la médaille du mauvais côté. Beaucoup moins, en fait. La tranche est beaucoup plus fine. Et du coup, t'as moins cette humanité qui, pour moi, reposait sur la tranche de la médaille. Cette nuance qui reposait sur la tranche de la médaille, c'est A, B, et le slash entre A et B est de plus en plus fin, voire n'existe plus.
Effectivement, bah du coup, j'invite les gens à écouter ce morceau. Nous, on va écouter un deuxième extrait de cette EP, et on se retrouve juste après pour la deuxième partie de l'interview. On écoute tout de suite votre morceau « Esclave heureux ».
Où est ma place? Enveloppé en douceur.
Ne m'ouvrez pas les yeux, je préfère être heureux. C'était Souffre avec le morceau Esclave Heureux, le troisième clip dévoilé par le groupe. Je suis toujours avec Urial, le chanteur et compositeur de Souffre. Alors, de quoi il parle ce morceau? Je pense qu'il est un peu lié à ce qu'on vient de dire un petit peu avant le morceau. Voilà, de quoi il parle en gros? Comment tu l'as écrit? Comment tu l'as abordé?
Ah, Esclave Heureux, c'est ambivalent. C'est-à-dire qu'à un moment, j'étais en train de me dire, mais en fait, ouais, ne m'ouvrez pas les yeux, je préfère être heureux, je préfère peut-être ne pas voir tout le vice du monde. Et en fait, le fait que moi, je vois le vice du monde, le fait que j'en ai conscience, que je sache, je peux toujours choisir de pas le voir. Je peux toujours accepter de pas le voir. Et au final, est-ce que ça me rend moins heureux? Non. Je pense qu'en fait, aujourd'hui, se voiler la face, ça peut te faire du bien, ça peut être libérateur. Esclave heureux, c'est totalement ça, c'est le renoncement. C'est quelqu'un qui sait, hein, qui a conscience, qui voit tous les événements et qui peut-être a pris la décision la plus difficile, c'est d'être sage. C'est-à-dire, et c'est pas d'être calme, hein, c'est pas de pas se révolter, c'est pas d'avoir cette sensation d'avoir envie de se révolter, c'est de lâcher l'affaire. C'est d'être vraiment dans le « Ok, tu veux te battre avec ton ego, tu veux y aller, tu veux régner, va régner. Tu veux être plus grand que Dieu, va. Il n'y a rien au-dessus de Dieu et c'est être rien qui te mettra au-dessus de Dieu, ce n'est pas être tout, au contraire. » Donc en fait, tu vas avoir cette ambivalence, c'est ce « je lâche prise ». Il n'y a que les poissons morts qui nagent dans le sens du courant, mais pourquoi est-ce que je vais me battre pour rester à contre-courant en permanence, quoi? Et c'est un peu ça, j'ai envie de dire aux gens, avec ce morceau, parfois vous faites violence, vous faites mal, et je soutiens ça, je trouve ça très chouette. Et c'est ok de lâcher l'affaire. Si vous voulez juste être heureux et pas vous prendre la tête et pas vous mettre, pas souffrir de voir toutes les immondices que vous pouvez voir, mais faites-le.
Oui, je pensais que c'était que dénonciateur, effectivement, des gens qui faisaient ça, mais non, c'est ambivalent, c'est aussi, ça peut être un choix, voilà.
Exactement, en fait, aujourd'hui, t'as toujours 30 000 raisons de te battre, et les réseaux te donnent d'autant plus une raison de te battre, et c'est là où tu peux faire un lien avec Dévotion Connexion, qui parle vraiment de l'affrontement numérique. Si tu veux te battre, pour des raisons que t'as vues en ligne, concerne pas directement, que t'as pas vécu directement et que tu connaissais même pas autrement que par le virtuel, tu peux aujourd'hui. Aujourd'hui, tu peux être sous n'importe quelle chapelle, prendre les armes et aller vraiment et devenir terroriste quelque part.
Absolument, ouais. Terroriste numérique.
terroriste numérique ou t'es même terroriste en vrai, il y a des gens qui deviennent fanatiques grâce au virtuel, mais j'ai envie de dire aux gens, ok, bah écoute, on va faire de façon ironique, accepte. On peut, c'est une façon, ceux qui veulent voir de façon cynique au premier abord vont dire ah ouais c'est cynique, c'est ironique, je veux continuer à me battre, je refuse qu'on me ferme les yeux, et tu vas voir ceux qui vont te dire ok, en fait peut-être que c'est plus sage de, je préfère pas prendre un parti absolu là-dessus parce que je trouve qu'en fait les gens quand ils se battent ils ont sans doute leur bonne raison, jusqu'à un moment s'ils sont fatigués de se battre, je vais pas dire que personne les oblige, mais
c'est pas moralisateur quoi en gros.
J'essaye. T'essaies c'est pas faire. Facile. Hein. À un moment, quand tu veux faire passer des messages, il y a toujours.
Enfin, ça dépend des sujets, voilà, c'est ça. Parce que écran contre écran, dévotion, connexion, du coup, voilà, c'est un peu plus dénonciateur un peu de la situation.
Je pense que les plus dénonciateurs, ça, non, si on veut vraiment parler dénonce, ou simplement constat lucide, hein, t'as des rappeurs qui appellent ça du rap conscient. Si tu veux l'aspect un peu plus rap conscient dans mes paroles, ça va être en effet être esclavéreux, parce qu'on aborde les choses recta. Ça va être derrière le masque, parce que pareil, on aborde des thèmes recta, et Dévotion Connexion qui va avoir aussi cette approche-là. Dévotion Connexion, je me suis quand même vraiment penché sur la violence numérique. C'est-à-dire que moi, je me fous un peu de la chapelle pour laquelle tu es en train de te battre, mais si ta façon de te battre, c'est vraiment de te concentrer sur le numérique, j'ai envie de te dire, mec, débranche ton ordi, achète-toi une ceinture d'explosifs et va à l'Assemblée nationale ou fais un truc, tu vois.
Ce sera coupé au montage, hein, je précise.
Ah non, moi je suis très clair là-dessus.
Et y a un autre
je préfère les mecs qui vont vraiment risquer leur peau, mais qui vont vraiment faire un acte qui marque et qui change, Action Directe, les Brigades Rouges ou des choses comme ça, que les gens qui vont se dire, ok, j'accepte, je vais faire râler un petit peu sur Internet, je vais m'engager virtuellement, puis je retourne dans mon canapé sur Netflix quand il y a la prochaine révolution, il faudra verser un peu de sang.
Je comprends, effectivement. Alors, le morceau « La mémoire de la peau » qu'on a écouté en début d'émission, c'est un peu un hommage au tatouage, si j'ai bien compris. Ouais. En tout cas, ça raconte voilà, le tatouage qui marque la peau, etc., l'histoire. Est-ce que tu es obsédé par les tatouages, comme tu le dis dans le morceau ? Est-ce qu'il y a un peu d'autobiographie là-dedans ?
Non, je suis obsédé.
Je vois que t'es pas tatoué là comme ça.
Je suis une toile vierge. J'ai beaucoup de désir de tatouage. Mais j'en ai. Je me vois tellement pas avec un seul, mais avec une tunique intégrale. Qu'un de ces quatre, il faudrait juste que je débloque 15 000 euros pour faire ça.
Ouais, et puis plusieurs mois de travail aussi.
Et plusieurs mois de travail, mais ça me tente fortement. Hein, ça fait partie des trucs qui me tentent le plus. Je suis obsédé avec les plaies ouvertes qu'en général ça symbolise chez les gens. Je trouve qu'en fait, les gens ont un rapport à leur peau qui est extraordinaire, que ce soit à travers les rides, les cicatrices ou les tatouages, mais aussi la scarification, les piercings, etc. Et je trouve que c'est un truc qui nous unit vachement dans le métal. J'avais envie d'un morceau un peu.
Fédérateur,
ouais,
un peu.
Ça,
ouais.
Fédérateur. Parce que bah, globalement, c'est vrai que je trouve que t'as vraiment le. Dans le métal, on est très sur le négatif et tout. Et les tatouages, en général, c'est un peu des fardeaux que tu portes. Mais tu les portes comme des victoires. Et je trouve ça assez chouette que les gens s'approprient des douleurs ou quoi que ce soit et on transforme ça sur un objet esthétique, décorant, presque une revendication, presque un étendard. Et j'avais envie de leur rendre hommage parce que je trouve que tous les gens qui font ce choix-là, quelque part, c'est un choix extrêmement courageux et en même temps un choix qui est tellement personnel, qui n'appartient à la fois tellement qu'à eux et à tout le monde parce que tu peux les voir. C'est ce que je te dis, hein, c'est un journal intime crypté et dévoilé au grand jour. C'est-à-dire que t'as pas le code, il y a des trucs qui sont plus ou moins évidents, mais t'as pas le code et pour autant, tu le vois.
Voilà, soyez fiers de votre papillon dans le bas du dos. Voilà, c'est ça en gros, c'est votre histoire. En tout cas, là, on vient de parler de trois morceaux de votre EP. On voit que le thème des paroles sont quand même assez profonds. Il y a une part de personnel. Tu parles de regrets, de perte, d'impuissance, de solitude. Voilà, c'est des thèmes qui t'animent, qui sont un peu personnels. Est-ce que tu mets du personnel dans tes paroles ?
Je mets du personnel, mais étrangement pour ce morceau, c'est peut-être ce qu'il y a de moins personnel parce que du coup, je suis pas tatoué. Moi j'ai des cicatrices, j'ai des fractures, j'ai des trucs où ma peau a vécu, parce que la peau c'est quand même la première phrase, c'est la peau parchemin de mon vécu. C'est vraiment voilà la peau, hein, c'est un scroll où tu fais défiler ta vie, tu scrolles sur ta peau, tu
comme les troncs d'un arbre, le tronc d'un arbre et autres.
Exactement, tu vois tout ce qui t'est arrivé et les rides, les cicatrices au final c'est ce qui t'arrive. Mais non, en fait j'ai parlé avec les gens les plus tatoués de mon entourage et je leur ai demandé ok pourquoi, vas-y parle-moi, et en fait au fur et à mesure il y avait des points communs, il y avait des trucs, et puis j'ai pris, ça m'a inspiré, je suis allé chercher ça. Il y en a, ils sont obsédés par leur prochain tatouage. Et en fait, la plupart du temps, j'essaie de compiler un peu ces mots-clés, de sortir des paroles où chacun peut se reconnaître un peu. Et j'espère que ceux qui m'ont confié des choses...
Ils ont reconnu leur partie.
Ils ont reconnu les clins d'œil, les petits hommages, etc. tu vois, le plaie ouverte, pour parler d'un tatouage, c'est pas de moi, c'est vraiment quelqu'un qui m'a dit, ouais, bah écoute, plutôt que d'avoir une plaie ouverte, bah j'ai mis quelque chose dessus, et je trouve ça super chouette. Je lui ai dit, ok, je te la pique.
Il y en a qui font aussi des tatouages après une ablation mammaire, etc. Enfin, voilà, il y a plein de choses possibles, effectivement. Alors, tu cites la colère, la rage comme ton énergie principale pour ton écriture. Est-ce que c'est encore le cas? Et surtout, la colère contre quoi, du coup?
Ça a bougé un peu. Ça a bougé un peu. Je pense qu'aujourd'hui, je suis plus animé par un désir d'évasion, un désir de liberté. Ça a toujours été un peu latent, mais en général, c'est d'abord venu d'une frustration. La liberté, ça vient de la frustration d'être enfermé quelque part. Et en général, de toute façon, tout désir vient d'une souffrance ou d'un manque. Hein. Schopenhauer, on oscille tous entre la souffrance et l'ennui. C'est le philosophe le plus positif du monde. Je vous recommande de lire Schopenhauer si vous êtes en dépression, ne faites pas ça. cette colère, cette rage, je pense que n'importe quelle que soit ta situation, moi j'étais quelqu'un qui a une vie extrêmement chanceuse et je suis extrêmement chanceux. Ça, c'est toujours ça qui est fascinant avec la souffrance. Souffrance, colère, rage, c'est relatif. Il n'y a pas de souffrance absolue, de colère absolue, de rage absolue, parce que même quelqu'un qui va bien peut souffrir de quelque chose. Et ça a l'air minime, mais il le ressent à quasiment la même intensité de quelqu'un qui souffre vraiment. Et en fait, souffrir vrai n'existe pas vraiment.
Ça dépend,
ça dépend tellement de choses que la souffrance est une des choses les plus relatives. D'où le nom aussi du groupe Souffre. On souffre tous de la façon la plus différente possible. Et pour autant, on a ce sentiment, cette sensation. Notre corps est taillé pour ça, pour nous dire « Hey, il y a le bouton souffrir ». Il y a le bouton plaisir aussi, mais il y a le bouton souffrir. Et qu'importe la raison,
on n'a pas tous les mêmes degrés de tolérance, les mêmes vécus, les choses qui nous marquent, etc. Effectivement, c'est assez profond, assez intéressant.
Moi, je trouve que c'est un peu une porte ouverte de dire ça, en vrai. Mais moi, actuellement, ce qui m'inspire mes paroles, etc., en général, c'est des exercices de projection. C'est des exercices parce que j'ai lu un livre qui m'a botté, ou parce que j'ai vu quelque chose, ou parce que j'ai constaté quelque chose. Des fois, c'est des déclics. C'est comme la pochette de l'album qui est un œil. Pourquoi un œil qui te regarde? Parce que justement, dévotion, connexion, tu te regardes qu'à travers un écran. Moi, je veux que quand tu prennes mon EP, c'est un œil qui te dévisage. Un œil connecté avec les circuits imprimés.
Oui, les petits circuits imprimés, ouais.
Mais un œil quand même. Parce que je me suis dit, au moins, tu verras une rétine aujourd'hui.
Wow, c'est la punchline de l'interview. Alors, le français dans tes paroles, dans ton chant, est évidemment très important. Je te cite parmi les raisons, t'as envie que les gens se mettent à aimer le français dans le métal.
Ouais.
L'avantage de chanter en français, c'est aussi que tu peux motiver et impliquer les gens. Toi, t'as envie de raconter une histoire, donc aussi c'est plus simple de traduire ce que tu ressens dans ta langue maternelle, j'imagine.
Ouais.
Est-ce que ça te rend pas aussi d'un côté un peu plus vulnérable d'une certaine manière, puisque tu peux pas te cacher derrière la barrière de l'anglais, derrière la vitre de l'anglais un petit peu.
Je sais pas, la vie c'est pas un safe space. J'ai pas besoin d'une barrière. Donc si je mets mes émotions quand tu mets tes tripes sur la table et que tu montres à tout le monde et que tu dis allez-y, mettez les mains dedans, c'est parce que tu sens que t'es capable de le faire. Si t'es pas capable de le faire, tu le fais pas et puis tu t'es pas artiste. Je veux dire, je critique pas ceux qui sont pas artistes et qui sont pas capables de le faire. Ça demande une forme de courage, mais aussi une forme d'inconscience. Non, tu t'ouvres le beat, tu mets tes tripes à l'air. Et si les gens ils arrivent pas à lire ce qu'il y a sur les tripes ou qu'ils arrivent pas à comprendre où est-ce qu'ils mettent les mains, ça me ressemble pas. Mes premiers mots que j'ai formulés étaient en français, mes dernières pensées seront sans doute en français. Je vois pas pourquoi, quand au moment où je dois être intime avec les gens, au moment où je me livre, au moment où je purge mon art, je devrais m'exprimer dans une langue qui est pas celle qui est pas celle du cœur, qui est pas celle de la cervelle, qui est pas celle des tripes, quoi.
Et dans tes paroles, on sent une vraie recherche poétique au niveau de l'écriture, au niveau du rythme. Tu cites d'ailleurs Baudelaire dans tes influences. Moi, je trouve que, enfin, c'est un peu ma question, mais est-ce que tu trouves, parce que moi, oui, que tu as une vision plus d'un poème que chanson, en fait, lorsque tu écris. Il y a beaucoup de figures de style, d'allitération, de sonorités similaires. Voilà, il y a une vraie recherche à ce niveau-là. Est-ce que c'est ton approche? En tout cas, moi, je l'ai ressenti comme ça.
Comme je disais, Souffre, c'est pas un projet musique. C'est pas que musique. Si tu veux prendre la musique sans les paroles, vas-y. Si tu veux prendre la musique pour l'impression qu'elle dégage, c'est très bien. Si tu veux juste prendre les paroles, les lire et ne pas écouter, fais-le. Très bien, ça me va. Pour moi, ça reste du Souffre. Si t'as lu du Souffre, t'as écouté du Souffre et que t'as vu du Souffre, et que c'est pas le même média, le même médium, de transfert, et que ça t'implique pas de la même façon, ça te fait pas vibrer de la même façon, ça me va parfaitement. Au contraire, je pense jamais quand j'écris un morceau en me disant j'écris ce morceau, il faut que ces paroles fassent de telle taille à tel moment, à tel endroit. En général, je fais morceau d'un côté, parole de l'autre, et ensuite je charcute et je fais une greffe un peu contre nature parce que souvent il faut charcuter à fond. Hein,
oui, j'imagine. Oui.
Le français a l'avantage et le défaut d'avoir C'est une très belle langue, c'est une langue qui est super sexy, c'est une langue qui permet énormément d'allitération, qui permet énormément de figures de style, et qui fait que ce lyrisme que j'adore, hein, en effet très influencé par Baudelaire et par Damasio, pour ceux qui connaissent, je recommande de lire, ça te permet en fait d'avoir ça a le défaut pardon, d'avoir des mots en deux et trois syllabes, et là c'est beaucoup plus difficile rythmiquement, et pour faire des coupes, de virer juste une syllabe ou deux, ce que l'anglais te permet...
Oui,
facilement.
Bah oui, effectivement. Et du coup, musicalement, puisque tu parles de la musique, on va en parler. Musicalement, donc, vous êtes un groupe de metal moderne, un peu djent, un peu metalcore progressif. C'est les étiquettes qu'on voit passer de temps en temps. Tu disais, voilà, Jean-Marc qui a intégré le groupe donc, de Proxima pour Souffre. Comment ça s'est passé puisque tu disais que humainement, ça avait matché, mais musicalement, voilà, qu'est-ce qu'il a apporté parce que toi, tu composes également, mais est-ce que lui, il a composé aussi enfin, voilà, comment ça
pour
s'est passé
Pour ce premier EP, on a plus composé... sans Jean-Marc pour l'instant, parce qu'il est arrivé relativement sur le tard dans le projet, mais justement c'est lui qui nous donne envie cette rupture totale avec le précédent projet, parce qu'il apporte énormément et ça va déjà se sentir pour la suite. On est déjà en train de travailler différemment pour la suite.
Attends la fin de l'interview.
Tu sais, un artiste parle de ce qu'il a fait et a envie de parler de ce qu'il fait.
Bah oui.
Et c'est normal. Donc, mais en
parler
fait,
de ce qu'il va
sur
faire.
Sur l'écriture, pour l'instant, j'ai beaucoup composé. J'ai pas été seul à composer, mais j'ai quand même beaucoup composé. Tout le monde a donné un avis et a essayé de revoir les structures quand ça faisait pas sens ou quand il y avait besoin de faire des modifications.
Charcuter, comme tu dis.
Il y a un des morceaux de l'EP où on a enlevé intégralement la compo, on a gardé la voix et on a composé par-dessus de la voix déjà enregistrée.
C'est lequel ?
Ils n'ont pas bougé.
On va voir si dans une minute ou deux là, le morceau que je vais passer, on va voir si c'est celui-là, vu qu'il en reste deux, on va voir, j'ai une chance sur deux pour le coup. Oui, et du coup sur l'album Egosphere de Raga Raja, il y avait un concept global dans l'album, le thème c'était la liberté. Et là pour cette EP, est-ce qu'il y a un concept qui aurait un peu animé un fil rouge, un petit peu ?
Le masque plutôt. Je pense que c'est le masque parce que esclavereux c'est se regarder en face quelque part. Dévotion, connexion, c'est ce que tu te sens capable de faire quand tu as le masque et du numérique. Combustion animale, ça va vraiment être qu'est-ce qu'il y a derrière le masque de bouillonnant. Ce morceau, on n'en a pas parlé, mais c'est vraiment une ode au vibrant, au vivant, à l'animal, à l'énergie un peu primale qu'il y a en nous. Derrière le masque, c'est justement
le morceau le plus parlant à ce niveau-là.
Et le dernier, la mémoire de la peau. Bah, t'as beau avoir un masque, tu le portes sur une peau.
Effectivement.
Final, ta peau peut être ton propre masque.
Et ben voilà, c'est le thème de cette EP, c'est le masque. On va écouter un dernier extrait de cette EP, donc Dévotion Connexion, et on se retrouve pour la troisième et dernière partie de l'interview. Il y aura les questions flash, un focus sur un documentaire de la plateforme The Pit, l'agenda concert Gérard Drouot Productions et le programme du Hellfest Corner. On écoute tout de suite Combustion Animale de Souffre.
Solaire, donne-moi ta force vitale, ou entre ciel et terre.
C'était Soufre avec le morceau Combustion Animale. Vous écoutez le podcast La Fosse et nous sommes dans la troisième partie de l'interview de Soufre. Alors même question, t'en as parlé un tout petit peu juste avant, de quoi parle ce morceau, mais comment il a été écrit, composé, est-ce qu'il y a des anecdotes en gros?
Ouais, c'est vraiment un morceau où je me suis dit tiens, celui-là, j'ai pas envie de passer de message ultra clair. Vas-y, on va passer sur quelque chose d'extrêmement lyrique, d'extrêmement poétique et en même temps celui où tu peux interpréter de façon le plus variée possible. C'est un morceau qui parle un peu d'amour. Concrètement, c'est surtout un morceau qui t'enjoint à être à ressentir de la vitalité. C'est-à-dire, je trouve que les gens aujourd'hui ont malheureusement tendance à écouter leur douleur et pas à en faire quelque chose. Et pas à utiliser un peu ces brûlures, cette combustion intérieure pour la... C'est pas, tu peux en faire un carburant en fait. Tu sais, quand t'es en colère, t'as de l'énergie. Cette énergie-là, vas-y, fais-en quelque chose. Peins, va faire un footing, va taper contre un sac de boxe. Fais quelque chose. Pour moi, il y a trois étapes dans la souffrance. C'est d'abord la renier. T'as pas envie d'admettre que tu souffres. La deuxième étape, c'est de l'admettre et de l'accepter, voire même de la brandir un peu et d'en faire un objet de complainte. Et on est en ce moment, je trouve, dans une génération qui est plutôt axé sur cette deuxième étape de la souffrance. Et pour moi, la troisième étape, c'est ok, on souffre, et ben on va en faire quelque chose.
D'accord. Bah, en tout cas, c'est intéressant et c'est bien voilà, d'avoir des auteurs qui écrivent des textes profonds avec des doubles sens, voire même plus, et de la recherche. Enfin, moi, je trouve ça vraiment, vraiment très, très intéressant. Le feu a l'air très important pour toi. L'image du feu, t'en fais référence souvent. Bah, sur cette EP, t'en parles dans tous les morceaux. Il y a toujours un flamme, combustion, le feu, etc.
J'avais même pas remarqué.
J'allais te demander ce que ça représentait pour toi ou pas, mais ça se trouve, voilà, c'est un peu... inconscient, on va dire, peut-être.
Non, je trouve qu'il y a un côté fascinant avec le feu, parce que c'est quelque chose qui n'existe pas et qui se met à exister. Je trouve que la combustion, c'est quelque chose de fascinant, mais je dirais que surtout les énergies, moi, tout ce qui brûle, tout ce qui est vraiment c'est vrai que j'avais pas du tout fait attention à ça.
Bah voilà, dans tous les morceaux, je suis allé voir les paroles, il y a toujours une référence au feu sous ses différentes formes, c'est avec plein de synonymes et autres. Donc je me suis dit, il y a peut-être un thème récurrent, mais voilà, bon, bah non.
Non, mais t'as raison, je suis en train de me refaire les paroles dans ma tête, t'as tout à fait raison.
Alors, moi je vais passer à la question suivante parce que sinon on y est pour un petit bout de temps. Mais à l'époque de Raga Raja, pardon, tu disais que nous sonnons différemment, nous chantons en français, nous sommes une curiosité musicale. 5 ans ont passé à peu près depuis ce moment, est-ce que vous pensez toujours être une curiosité musicale?
Je pense que j'étais très prétentieux, mais toujours.
Voilà, il faut assumer. Non, comme
je dirais que la modestie, c'est, il faut quelque part être modeste, mais quand tu fais de la musique, t'es pas modeste. Déjà, à partir du moment où tu proposes un contenu artistique, ta modestie, tu la prends et puis tu t'en fais quelque chose. Donc non, t'es pas modeste et la modestie, c'est quand tu ne maîtrises pas totalement ton sujet. Je dirais pas qu'on maîtrise à 100% notre sujet en termes d'originalité et d'identité. On approche ça, on travaille, on affine. Mais pour moi, le fromage est encore un peu frais et on peut faire quelque chose d'un peu plus encore fort.
Vous cherchez encore votre identité finale, sonore.
On a les bonnes bases, on a une bonne approche et on se pose les bonnes questions pour faire les choses encore de façon encore plus identifiable. Ce sera peut-être pas de façon sonore que ça va arriver, peut-être que ce sera scénique, peut-être que ce sera dans la façon d'aborder, de chanter ou quoi que ce soit, mais on se pose encore ces questions-là, on avance toujours dans cette identité-là, on n'est pas du tout figé. Moi je trouve un défaut à cet EP par exemple, c'est que je trouve qu'il est encore un peu trop crossover. Il va encore un peu trop chercher à droite, à gauche, sans avoir vraiment des réponses définitives musicales, et où tu te dis ok, ça c'est tranché. Je le trouve pas assez tranché encore. Je trouve qu'il est remuant, je trouve qu'il est sincère, je trouve qu'il est riche.
Ouais, il est bien dense, produit quand même.
Merci. Il est relativement bien produit à mon sens. Il est surtout dense. Tu peux le découcher un peu comme des lasagnes et tout. Mais j'aimerais arriver à un stade de musique, une musique un peu plus pure, un peu plus épurée, en même temps plus identifiable dans cette épuration. C'est-à-dire qu'on arrête de rajouter des couches pour la rendre unique. On sache justement qu'est-ce qu'il faut bien enlever, qu'est-ce qu'on doit garder, c'est quoi les éléments les pivots qui nous amènent à être, comment dire, de plus en plus unique à la première écoute.
Alors bah voilà, tiens, tu vois, je voulais parler des concerts, mais finalement on va enchaîner là-dessus plutôt sur c'est quoi la suite pour Soufre. Est-ce que vous préparez un album peut-être par exemple?
On est déjà en train d'écrire un album. Pour ceux qui vont venir le 12 avril pour notre premier concert, vous allez être chanceux, vous allez entendre deux morceaux qui vont être sans doute sur le prochain album. On va jouer l'intégralité de l'EP et deux inédits que vous n'entendrez pas avant plusieurs mois. Donc pour ceux qui sont vraiment très curieux, on est déjà en train de faire un travail pour la suite. Ça se trouve, ces morceaux-là en plus ne vont pas du tout terminer sur cet album. Ça se trouve, ils vont faire venir ailleurs, ça se trouve, ils vont être repoussés, ça se trouve, ils vont être modifiés. Donc vous allez entendre des versions extrêmement éphémères et volatiles. Et ça, c'est quelque part ce qui fait le charme de la musique live, c'est que tu vas vivre quelque chose que tu pourras peut-être jamais revivre. Et on n'a plus tendance à faire ça. Aujourd'hui,
c'est très formaté, c'est un peu le même concert tous les soirs.
C'est le même concert tous les soirs, c'est qu'aujourd'hui, plus personne prend vraiment de risques dans la vie réelle. Enfin, la dernière fois que tu es allé prendre. La dernière fois que tu es entré dans un resto sans regarder sa note Google, je me demande quand c'était.
Ouais, moi aussi, je me demande
Et ben voilà, tu vois, c'est typiquement ça. C'est-à-dire qu'on se retrouve aujourd'hui à vouloir anticiper. On a démystifié, le virtuel a démystifié énormément de choses. Alors aujourd'hui, il faut tout préparer, tout faire, et tout figer. Et je pense qu'au contraire, là, on est dans un exercice où on va peut-être pas figer les prochains mois ces morceaux-là, et on va sans doute les faire évoluer. Je pense qu'entre les morceaux qui vont être entendus en live de cet album, on est en train de préparer, et les morceaux qui vont être pondus à la fin et avoir une vraie marge. Et ça va être bien.
Là, vous faites comme Bob Dylan, voilà, qui changeait l'arrangement de ses morceaux, ou même Led Zeppelin, qui changeait l'arrangement de ses morceaux quasiment tous les soirs. Ce qui fait que du coup, les gens ne savaient pas trop comment ça allait sonner.
Ça a énormément de charme. C'est extrêmement difficile quand tu joues aujourd'hui au clic ou avec des bandes, etc. Mais c'est vrai que ça a extrêmement de charme. Et c'est quelque chose, moi, en tout cas, c'est quelque chose sur lequel, si on avait plus de liberté technique, on ferait. Ouais,
bah oui, forcément. Alors, tu vas en parler. Premier concert ensemble, donc, de Soufre, vendredi 12 avril au Backstage à Paris, avec Atlantis Chronicles et NDKH. C'est donc votre premier concert. Est-ce que vous appréhendez un petit peu?
Oui.
Vous avez hâte, j'imagine.
On a hâte, on appréhende, on est prêt et en même temps, t'es jamais prêt. C'est ça qui est formidable, c'est qu'on a tous l'habitude de la scène, on a tous fait déjà des concerts et tous tranquilles et en même temps, on a cette petite boule un peu au ventre, comment ça va être perçu. On a envie de présenter un bloc. Moi, j'ai envie de rendre les gens sourds et aveugles. Hein. C'est l'objectif dans un concert, je trouve, où t'as envie de marquer. Mais on a la chance d'être avec des groupes super sympas, d'être avec une orga cool. Donc, pour le coup, le NDKH et Atlantis Chronicles, c'est vraiment des humains très chouettes qui ont vraiment. Je trouve. C'est pas facile dans le milieu, parce que dans le milieu métal, t'as toujours un peu. Et ça va mieux ces derniers temps, mais t'as longtemps eu cette jalousie constante où on se voyait comme des concurrents, alors que.
C'est l'ego aussi, je pense.
Ouais, mais on fait tous des choses un peu différentes. Et puis si tu fais quelque chose qui est trop proche de ton voisin, pose-toi des questions sur ce que tu fais, déjà. Et sois pas rageux si ton voisin réussit à faire quelque chose. Et puis en plus, soyons contents pour les potes qui réussissent, quand il y a des potes qui réussissent, parce que sincèrement, c'est un milieu qui est difficile. Sincèrement, les projets peuvent ne pas durer. Sincèrement, la fame peut ne pas être là. Et puis ton talent peut ne jamais être récompensé. Mais si j'ai un message à passer à tous mes potes, dans ce milieu-là et à tous les gens qui sont justement pas mes potes pour des raisons
X ou Y,
c'est les gars, en fait, on est tous dans le même bateau, c'est la merde, venez, on est contents les uns pour les autres. Quoi.
Alors ce que j'avais lu une fois, c'est qu'on n'est pas tous dans le même bateau, on affronte tous la même tempête, mais il y en a qui sont dans des yachts et d'autres dans des petites barques, voilà, ça dépend. Mais
c'est
voilà.
Très capitaliste, c'est très capitaliste comme vision.
En tout cas, Soufre, on vous verra également au Cave Fest à Gisors dans l'Eure, dimanche 23 juin. Vous avez joué là-bas d'ailleurs en 2018 avec Raga Raja, donc vous connaissez un petit peu le coin. Est-ce qu'il y a d'autres?
Non, on ne connaît pas le coin.
Ah bon?
Non, j'ai jamais joué à Gisors, moi j'ai joué au Cave Fest quand c'était à Château.
Là là.
Le Cave Fest, c'est pas toujours fait dans des conditions aussi royales qu'aujourd'hui, mais ça a été humainement extrêmement royal. Pour le coup, on était accueillis par Selim dans sa maison familiale, il faisait vraiment un festoche dans son jardin. Super punk, c'est quelque chose que j'aime beaucoup comme
do it yourself, etc. Moi, j'y suis jamais allé, alors que c'est pas très loin de chez mes parents, mais bon voilà, je ne perds pas espoir d'y aller. Mais toujours mi-juin, il y a les gros festivals, il y a plein de trucs à faire, voilà, c'est un peu compliqué, mais peut-être une autre fois. Est-ce que d'autres dates vont arriver pour Soufre cette année? Qu'est-ce que vous avez un petit peu de prévu? Est-ce que vous allez faire une tournée?
On essaie de se programmer des dates pour la rentrée septembre, etc. On aimerait surtout passer les deux premiers, le premier show, et ça va nous permettre d'ajuster, d'affiner, de prendre aussi le temps de présenter le projet, parce que on a envie de faire des tournées, on a envie d'être au taquet, etc. Mais les gens ne connaissent pas encore, et il faut un peu prendre le temps de présenter le projet aux gens. On est sur quelque chose qui est quand même pas extrêmement facile d'approche à cause du chant français. Donc voilà, ça peut prendre un peu son temps, mais clairement, on est sur des. On est en train d'essayer de préparer quelque chose de septembre à janvier en termes de date pour l'année prochaine.
D'accord, donc effectivement à surveiller, donc Souffre, je le rappelle, SOUF_FRE sur les réseaux sociaux. Quand tu parlais du masque, il y a une question que j'ai oublié de te poser, c'est le masque que tu portes dans tes clips, qu'est-ce que ça signifie? Est-ce qu'il y a une signification particulière?
Ouais, c'est une incitation en fait à prendre ma place. C'est-à-dire que je veux pas que ce projet soit aimé pour le visage d'un chanteur ou pour une question purement humaine, même si je remercie tous ceux qui me supportent dans ce projet et qui humainement sont proches de moi. Mon but, c'est vraiment que les gens puissent s'identifier. Et je trouve qu'on s'identifie mieux à quelque chose quand on peut porter ce masque, quand on peut se mettre à la place de quelqu'un. Je trouve que ça a un côté assez fascinant. Et ce masque-là, en plus, c'est vraiment un masque où tu ne vois pas mes yeux, et où tu te concentres sur la bouche et donc ce que je dis. Donc ça a du sens aussi de ce point de vue-là.
Pour amener ça vers les paroles. D'accord. Eh ben, c'est hyper intéressant. C'est presque la fin de cette interview. Mais avant de se quitter, on va passer aux questions flash. Petite série de questions-réponses rapides que vous pourrez retrouver en vidéo sur les réseaux sociaux de The Pit Edition, Facebook, Instagram, TikTok et sur le blog de The Pit Edition d'ici quelques jours ou quelques semaines. Ça dépend. Voilà, les questions flash tout de suite. Qu'est-ce que tu chantes sous la douche ?
Du Mylène Farmer et du Céline Dion, je dirais.
Quel est l'album qui t'a le plus marqué ?
Appetite for Destruction, des Guns N' Roses. C'est l'album que j'ai le plus poncé de ma vie. Ça fait partie des 5 grands albums que j'ai eu, c'est-à-dire que j'ai eu Motorhead, Hammerhead, j'ai eu Scapé, j'ai eu Les Berruriers Noirs, le live à Olympia de 1989, et j'ai eu AC/DC pour Power Rage. Et mon père m'a dit, le rock, c'est ça. La première fois qu'on m'a fait écouter les Rolling Stones en me disant que c'était du rock, j'ai rigolé.
Quel est ton meilleur souvenir de concert ?
Ah, alors que j'ai fait le Tramfest à Troyes, parce que c'était le concert de le plus incroyable qui s'est passé. On a joué sur un ring de boxe, on a eu un malaise de notre batteur, on a eu une coupure courant en plein milieu parce qu'il y a un mec qui allumait le four à pizza pendant que les amplis tournaient, ça marchait pas. J'ai fini par dormir dans une baignoire parce que le manager ronflait. Non mais c'était un excellent souvenir.
Avec quel groupe ?
C'était quand j'étais avec Ragrage.
A l'inverse, quel est ton pire souvenir de concert ?
On a fait cramer un ampli au bout de 2 morceaux. Voilà. Et impossible de continuer du coup.
Avec quel groupe vous aimeriez tourner ?
Je pense que j'aimerais beaucoup tourner avec Solitaris. Les copains qui sont vraiment très chouettes. J'aimerais beaucoup tourner avec Solitaris. Massistaria, ce serait très chouette pour les paroles. Mais on fait quelque chose de très différent. Donc... voilà, mais ouais, non, ça fait partie, je dirais, Solitaris. Et puis extérieur, ce serait Bleed From Within.
Tu es plutôt côté sombre ou côté lumineux ?
Entre les deux. Ah bah moi, c'est tranché, hein, sombre et lumineux, juste à côté.
Est-ce qu'il y a une reprise que vous aimeriez jouer ?
Absolument pas. Je pense qu'on n'est pas du tout un groupe de reprise. On n'a jamais parlé entre nous et ça n'a jamais été un délire.
Si tu avais un super pouvoir, ce serait lequel ?
Oh, celle-là, elle est bien. Je pense que ce serait pouvoir me téléporter.
À quoi es-tu accro ?
À la nourriture.
Un mot pour décrire Souffre ?
Souffre. C'était évident.
S'il te restait une journée à vivre, tu ferais quoi ?
Je déteste la notion de carpe diem. La notion de carpe diem, je la trouve triste. La notion de vie ce jour comme si c'était le dernier, je la trouve fataliste, bon bah vas-y, hein, crame tout, gaspille tout, fais ce que t'as envie, de toute façon plus rien n'a d'importance. Je trouve ça dommage, je préfère me dire vise ce jour comme si c'était le premier. Parce que ça veut dire qu'il est plein de curiosité, plein de mystères, plein d'illusions, plein de potentiel, plein de possibilités, plein d'envie, plein d'appétit. Et c'est le début de quelque chose, et quand tu démarres quelque chose, ça a toujours un parfum qui est en général un peu moins rance que quand tu termines quelque chose.
Est-ce qu'il y a un documentaire sur le rock ou sur le métal qui t'a particulièrement touché ou marqué ?
Documentaire, non. Mais alors en film, oui. La Rock Academy ou School of Rock en anglais. Incroyablement inspirant.
Quel est ton morceau préféré de votre EP Dévotion Connexion ?
Esclave heureux.
Et pourquoi faut-il écouter ce premier EP de Souffre ?
Parce qu'il est complexe, parce qu'il est riche, parce qu'il est dense, parce que tu peux décortiquer le mécanisme comme si c'était une horloge, parce que tu peux vraiment tirer des choses qui te concernent toi, qui te parlent à toi directement, parce que je te parle en français, parce que je te parle dans ta langue, dans celle de tes émotions, et parce que c'est suffisamment évocateur et différent de tout ce qui peut se faire en anglais.
Eh bien, merci beaucoup, Urial. Je rappelle donc que votre EP, donc de Souffre, Dévotion, Connexion, est sorti le 28 mars. Votre release party aura lieu vendredi 12 avril au Backstage à Paris avec Atlantis Chronicles et NDKH. Et vous êtes programmé au CAF Fest le 23 juin. Merci beaucoup, à bientôt.
Merci à toi, Raph.
Avant de passer à l'agenda concert Gérard Rowe Productions, un mot sur la plateforme The Pit qui a sorti il y a quelques semaines le documentaire Beijing Calling, les rockers de l'empire du milieu, qui s'intéresse à la scène rock et punk underground de la capitale chinoise, une scène en pleine effervescence malgré la censure et la corruption. En gros, à Pékin en 2014, il y avait 21 millions d'habitants et plus de 1000 groupes de rock, punk, metal ou garage, et deux énormes festivals de rock, le Midi Music Festival et le Strawberry Festival. Dans ce documentaire, on suit plusieurs groupes et organisateurs, ce qui donne une véritable photographie du rock chinois en 2014. Beijing Calling est disponible pour les abonnés de The Pit. L'abonnement, c'est 6€ par mois, 66,6€ par an. C'est sans engagement, il y a 7 jours d'essai offerts. Rendez-vous sur the-pit.com pour en profiter. Il y a également plein de contenus gratuits si vous voulez tester. On passe désormais à l'agenda concert Gérard Rowe Productions et le programme du Hellfest Corner.
Besoin d'un coup de main pour choisir un concert ? Ça tombe bien, c'est l'heure de l'agenda Gérard Rowe Productions.
Le tribute band Queen Extravaganza fait une grosse tournée des Zéniths en France jusqu'au 9 avril. C'est le seul et unique groupe validé et produit par les membres originels de Queen, Roger Taylor et Brian May. Donc parmi les dates qui restent, il y a le 5 avril à la Narbonne Arena, le 6 au Zénith de Pau, le 7 avril à l'Arkea Arena à Bordeaux et le 9 avril au Liberté à Rennes. Vous avez tout le détail sur gdp.fr. Ne ratez pas les deux concerts français de Judas Priest et Saxon qui ont tous deux sortis un nouvel album récemment et qui sont d'ailleurs deux très bons albums. Les deux groupes britanniques vous donnent rendez-vous à la Halle Tony Garnier de Lyon ce soir, ce vendredi 5 avril et lundi 8 avril au Zénith de Paris. Le line-up complet du festival Heavy Weekend a été annoncé, ce sont les 21, 22 et 23 juin à Nancy. Et donc en plus de Scorpions, Extreme, Deep Purple, Judas Priest et Alice Cooper, on trouvera Pretty Maids, Tom Morello, Aaron Jones, Sortilège et The Last International. Et puisqu'on parle d'Alice Cooper, le groupe jouera au Zénith de Paris le 2 octobre prochain avec Doro en première partie, voilà la heavy metal queen allemande, et la vente est déjà ouverte sur gdp.fr. Le Hellfest Corner maintenant, aujourd'hui vendredi 5 avril, c'est le lancement de la nouvelle carte du Hellfest Corner, nouvelle formule, nouveau tarif en baisse, et un happy hour plus long jusqu'à 20h au lieu de 19h, et donc ça c'est à partir d'aujourd'hui. Vendredi 5 avril et samedi 6 avril, il y aura deux soirées flash tattoo à partir de 21h au Hellfest Corner toujours avec la présentation de la nouvelle collection de vêtements The Crossed Lifestyle. Jeudi 11 avril, c'est une soirée spéciale Jack Daniels et vendredi 12 avril, c'est la soirée de lancement de Stempa qui est une marque de vêtements. Et puis j'ai oublié, le dimanche 21 avril, c'est le brunch de Jean, il y a deux services à midi et 15h sur réservation auprès du bar. Voilà, c'est la fin de cet épisode de La Fosse. Vous retrouvez les podcasts, comme d'habitude, sur Spotify, YouTube, Deezer, Samsung Podcast, Apple Podcast, Google Podcast, the-pit.com, etc., etc., etc. Le nom, c'est La Fosse, le podcast métal et rock. Et donc, abonnez-vous pour ne pas rater les prochains épisodes qui sortent chaque vendredi avec une interview par semaine. Je vous retrouve donc la semaine prochaine, vendredi prochain, avec l'interview du groupe Witcharius. C'est un groupe de doom metal originaire de Chell, en Seine-et-Marne, créé fin 2019. Leur album Witcharius est sorti le 16 février dernier. Ils ont pas mal de concerts prévus, dont le Grand Paris Sludge qui aura lieu les 26 et 27 avril à l'empreinte de Savigny-le-Temple en Seine-et-Marne également. Donc voilà, ça c'est pour la semaine prochaine. C'était Raphaël Udry, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vous dis donc à la semaine prochaine dans La Fosse.
Merci d'avoir écouté La Fosse. Retrouvez tous les podcasts sur Spotify, YouTube, Deezer et ThePit.com.